Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec Citlan.net, Mintinbox.net, StarWarsHolonet.com, PlanetStarWars.com, StarWarsUniverse.com, Star Wars Geeks Québec, le Space Trash Show, ainsi que Génération Star Wars et Science-Fiction.
Bonsoir et bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cette 31e édition littérature qui sera consacrée à la critique du livre Queen's Shadow. Je suis Jean-François et pour discuter du livre, je suis accompagné de Francis. Bonsoir Francis.
Salut Jeff.
Si on y va avec notre WhatsApp, qu'est-ce qui se passe côté Star Wars de ton côté?
Quand même quelques trucs. Écoute, j'ai terminé la série Résistance en VO, en VF. Je pense qu'il reste une couple d'épisodes. Là, je les écoute avec mes enfants. Mais en VO, la saison est terminée. Puis je dois avouer, je me suis claqué quand même 6 épisodes d'un coup. Là, puis je dois avouer que le calibre a quand même vraiment monté vers la fin. L'as-tu pris la série Résistance, toi?
Ouais, écoute, au début, je l'écoutais vraiment de reculons. Là. Mm-hmm. Mais j'avoue que plus ça avançait dans la saison, mieux que la série devenait. Mm-hmm. J'ai bien aimé la façon que ça a fini, la première saison.
Là. Ouais, exact. Moi aussi, bref. Il va y avoir une émission éventuellement sur la série. Là. Mm-hmm. Mais moi, déjà, je dirais aux auditeurs qui l'ont pas du tout pris là, parce qu'il y a à cause de l'appréhension par rapport au graphique ou au ton là, qui était quand même un peu plus jeune. Moi, je vous la recommande personnellement si je comparais avec la première saison de Rebels, puis peut-être même avec la première saison de Clone Wars. Je pense que je préfère la première saison de Résistance.
Blasphème. Non, j'avoue que la première saison de Rebels était... C'était là, hein? Rebels, ça a plus pris le rythme à partir de la deuxième saison avec l'introduction de Ahsoka, Vader, tout ça. C'est vrai.
Sinon, je termine, il me reste une dizaine de pages au troisième volume de la trilogie Riposte, donc La Chute de l'Empire, en version française, là, qui est sortie fin février, je pense. Mm-hmm. Encore une fois, j'ai bien aimé, je dois avouer que le contexte a changé. On n'est plus... parce que quand c'était sorti, il y avait eu beaucoup d'appréhension, beaucoup d'attentes, etc. Là, avec les années qui ont passé, je trouve que c'est une excellente conclusion à cette trilogie-là. Des personnages quand même intéressants. Un contenu aussi pour l'époque là, dans le timeline qui est intéressant. Je trouve que... Puis là, je l'avais pris en audio en anglais à l'époque, c'était le seul contenu, tandis que là, il s'est ajouté des BD, il s'est ajouté Battlefront 2, la campagne, avec la bataille sur Jakku, en parallèle de ça, fait que j'ai trouvé ça bien intéressant de relire la bataille de Jakku après avoir joué au jeu, lu d'autres livres qui font référence, etc. Donc, ceux qui ne l'auraient pas encore lu, la version française est maintenant disponible, donc la totalité de la trilogie est disponible. Je sais qu'il y en a plusieurs qui attendaient que les trois soient sortis pour se la procurer. Mm-hmm. Et ce que je peux vous conseiller aussi, c'est de n'abandonner pas après le premier.
Ouais, c'est le plus dur à lire.
Ouais, le premier, c'est un peu spécial, mais ça va en s'améliorant. Inquiétez-vous pas.
C'est parce qu'aussi, l'auteur a un style particulier, hein, de...
Ouais, effectivement, toujours le temps présent, ouais. Et toujours des phrases courtes. On finit par s'habituer, par contre, j'ai l'impression que ça m'agaçait plus là, sur le premier livre. Mm-hmm. Mais ouais, c'est sûr que c'est pas Timothy Zahn, c'est sûr que c'est pas Claudia Gray.
Ouais, c'est ça.
Mais écoute, bref, fait qu'encore quand même là, un bel ajout à ma bibliothèque, à ma collection du nouveau canon en français. Sinon, je continue les sorties de comics comme d'habitude. Il y a plusieurs séries intéressantes ces temps-ci. Et j'ai essayé le nouveau. Je me suis rebranché au Xbox pour essayer le nouveau mode Assaut Capital, je pense, en français, sur Battlefront 2. Mm-hmm. Je ne sais pas si tu l'as essayé de ton côté, Jeff.
Oui.
Moi, personnellement, j'ai bien aimé. Je dois avouer que c'était une bonne idée. Surtout que je pense que ça n'a pas dû être une si grosse affaire là, de programmer tout ça. À part des belles animations, là, des croiseurs là, qui explosent, des choses comme ça.
Mm-hmm.
Par contre, je préviendrais les gens que ça peut donner des parties très, très longues. En fait, peut-être même sans fin, j'ai pas vérifié. Mais le maximum que j'ai vu jusqu'à maintenant avec mes fils, c'est une partie d'une bonne heure et demie. Parce que le nombre de phases où tu retournes au sol et tu retournes dans les vaisseaux et tu retournes au sol, pour résumer pour ceux qui seraient pas du tout au courant de quoi on parle, c'est que le jeu commence au niveau du sol. Pour l'instant, il y a juste la bataille de Geonosis, mais je sais qu'il y en a d'autres qui s'en viennent.
Ouais.
Bientôt. Mais dans le fond, c'est ça, on commence au niveau du sol et le but c'est d'atteindre des transports. Et une fois qu'on a atteint l'objectif, que notre équipe a atteint l'objectif, on décolle pour aller attaquer un croiseur. Mais si on échoue dans notre attaque, c'est l'abordage du croiseur ennemi, donc vraiment à l'intérieur. Puis si on échoue l'attaque, ben, on retourne à la bataille au sol et on continue encore, puis on peut retourner encore une fois dans le vaisseau. Donc, j'ai vu beaucoup d'allers-retours comme ça. Et je te dis, après une heure et demie, tu te dis, mais y a-t-il un maximum là, d'allers-retours?
Ouais, c'est ça. Hein?
Mais bref, je sais pas si c'est sans fin, honnêtement. C'est ça, je disais à mon fils tantôt, il y a peut-être un maximum, je sais pas. Mais ça fait des parties très longues. Là, si vous avez juste 15 minutes à jouer, là, c'est peut-être pas le mode à choisir.
Pourtant, moi, il me semble, peut-être parce que quand j'ai embarqué, j'étais peut-être à cause, j'ai embarqué dans le milieu d'une partie.
Mm.
Fait peut-être à cause de ça, je pense que ça veut dire peut-être 15-20 minutes, là, comme une partie comment ça s'appelle, Galactic Assault, je pense. C'est ça le mode?
Non, c'est Capital Assault.
Non, mais je veux dire, le mode là, que, tu sais, faut t'attaquer les AT-AT, exemple, ou.
Ça.
Qui était comme le mode principal là, du jeu. Là.
Mm-hmm.
Fait que j'ai trouvé que c'était à peu près la même longueur, mais si tu me dis que ça dure une heure et demie.
J'étais très surpris en fait que ça continue. Hein? Tu sais qu'après que t'échoues à la deuxième phase, tu retournes au niveau du sol. Tu sais, il y avait eu d'autres modes comparables. Là,
ouais, habituellement quand t'échoues, c'est fini là.
C'était-tu dans le premier Battlefront où il y avait eu l'extension de l'étoile de la mort?
Ouais.
Puis dans le fond, tu sais, si t'échouais, c'était fini.
Ouais, c'est ça. Même les autres modes, habituellement, c'est quand t'échoues, la partie est finie.
Mais bref, je trouve que c'est un bel ajout au jeu. Ça prolonge encore une fois la durée de vie du jeu en attendant dans quelques jours là, la venue de Jedi Fallen Order.
Ouais, bon,
ça sera pas du tout le même genre de jeu, là, mais n'empêche, pour les gamers.
Mm.
Fait que c'est ça mon WhatsApp de mon côté.
Excellent. Moi, c'est plus tranquille que toi. Dans le fond, la seule chose que j'ai, c'est que je me suis rattrapé dans les bandes dessinées Star Wars, dans les comics. Surtout avec la série Darth Vader, donc la deuxième série, qui, je sais pas si elle est terminée ou est sur le point d'être terminée.
Ouais, elle est terminée.
Elle est terminée, hein, c'est ça. Fait que j'ai comme lu là, les 20 premiers numéros, fait qu'il m'en reste pas gros. Je pense qu'il m'en reste 4 ou 5 à aller. Écoute, je trouve ça tellement bon. J'avais adoré la première série Darth Vader.
Ah, mais c'est un cran au-dessus, là.
Ouais, c'est ça. Ben, celle-ci de l'auteur Charles Soules, elle est vraiment, vraiment bonne.
Ah ouais, puis tu vas voir, c'est bon jusqu'à la fin. Là.
Ouais.
Vraiment une excellente série.
Oui, c'est vraiment bon. Puis c'est ça, fait que j'ai rattrapé ça, puis j'ai rattrapé la série... comme la série principale Star Wars, je trouve que plus ça avance, plus que la qualité prend des barques. J'ai aimé comme les premiers, je dirais peut-être premiers 30 numéros, mais là, ça s'étire.
Ça dépend, je te dirais, où est-ce que tu es rendu. Effectivement, à passer la trentaine, là, il y a un bout que j'ai trouvé un peu pénible aussi. Quand on tombe avec les Mon Calamariens, là, j'ai trouvé que c'était très intéressant par contre. Donc, je sais pas si t'es rendu là ou.
Moi, je suis rendu. J'ai fini l'histoire de quand Luke va sur Jedha.
Ok, ouais.
Puis ça, avec, j'étais comme. Alright, c'est cool, c'est le lien Rogue One, mais l'histoire est comme.
C'était ordinaire, là.
Mais bon, c'est ça. Donc, on rappelle nos plus récentes émissions. Il y a le Star Wars en direct 167 qui est dédié aux communications entourant les bandes annonces de l'ère Disney. Et le Star Wars en direct 165-166 où nous vous présentons notre guide de survie pour la Star Wars Célébration Chicago.
Je te couperai dans ton élan pour conseiller fortement la trilogie d'émissions sur les bandes-annonces.
Oui.
Faites par nos collègues français, j'ai appris énormément de stock. À ma grande surprise, là, clairement, j'étais loin d'être un connaisseur du sujet. Donc, je vous les conseille fortement. C'est même, tu sais, si on les a tous vus un jour ou l'autre, là, les bandes-annonces, là, selon l'âge qu'on a. Mm-hmm. Mais malgré ça, là, on a appris quand même beaucoup, beaucoup de stock. Donc, je vous invite à écouter ça.
Oui, effectivement. On rappelle aussi que nous sommes en période de recrutement au Québec et en Amérique du Nord. Donc, si vous êtes un grand fan de Star Wars et vous voulez avoir des discussions sur différents sujets Star Wars, vous voulez participer à des discussions, allez sur notre page starwars.direct dans la section recrutement. Et on rappelle aussi que vous pouvez vous procurer des t-shirts de Star Wars en direct sur notre page starwars.direct section boutique. Et si vous êtes en France, vous pouvez aussi vous procurer des tasses. On en profite pour remercier nos partenaires Mintinbox, Star Wars Holonet, SitClan.net, Planet Star Wars, Star Wars Universe, Star Wars Geeks Québec, ainsi que Génération Star Wars et Science Fiction. Et sur ce, on va en hyperespace.
Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark.
All right, stand by.
Notre sujet principal ce soir est le livre Queen's Shadow de E.K. Johnston. Queen's Shadow est un livre qui est paru le mois dernier, au mois de mars. C'est un ce qu'on appelle un livre pour jeunes adultes qui est consacré à Padmé Amidala. Donc, si on résume brièvement dans le fond, ce que ça dit, c'est que l'histoire se déroule 4 ans après la menace fantôme. Padmé, elle arrive à la fin de son règne en tant que reine de Naboo. Et elle est prête à retourner à une vie un peu plus... moins publique, hein? Une vie un peu plus privée.
Mm-hmm.
Mais à sa grande surprise, la nouvelle reine demande à Padmé de continuer à servir le peuple. Et cette fois-ci, c'est au Sénat galactique. Alors, Padmé n'est pas trop sûre de son nouveau rôle, mais elle ne peut pas laisser tomber la reine, donc elle accepte d'y aller. Ensuite, elle amène elle et ses assistantes,
ouais.
Surtout Sabé, donc se décide d'aller ensemble à Coruscant. Et donc, ce qu'on suit, c'est justement les débuts de Padmé en tant que sénatrice. Puis on voit que c'est la vie de sénatrice sur Coruscant, c'est totalement l'opposé de ce qu'elle faisait en tant que reine sur Naboo. Dans le fond, le livre suit deux histoires. Il suit l'histoire de Padmé, donc ses débuts en tant que sénatrice, et l'histoire de Sabé. Sabé qui est quelqu'un qui a beaucoup de ressources, hein, qui est très comme une genre d'espionne, hein, finalement. L'histoire, elle décide d'aller à Tatooine. On va expliquer plus tard pourquoi. Et ensuite, elle revient rejoindre Padmé sur Coruscant suite à sa demande. Donc, c'est ça. C'est pas mal ça, le livre. C'est pas là, un livre où il y a plusieurs rebondissements. Mais en gros, c'est l'histoire du livre. Si on y va avec, on va y aller avec nos critiques sans spoilers parce que nous allons avoir une section après parce que nous allons consacrer à différents sujets spoilers pour le livre. Donc Francis, je sais pas si tu veux y aller en premier.
Ouais, ben je mentionnerais peut-être juste là que dans le fond c'est ça l'auteur Emily Kate Johnson, c'est elle qui avait écrit aussi l'autre livre Young Adult Ahsoka, qui avait quand même été passablement apprécié, je pense, à l'époque, et qui est attendu depuis des années par la communauté francophone, qui peine à chaque année de voir qu'il est toujours pas traduit. c'est quand même une lecture relativement rapide, 350 pages, donc un peu plus long que la majorité des young adults qu'on avait eu jusqu'à maintenant, mais plus court quand même que Rebel Rising et Lost Star, qui était quand même un bon 500-600 pages, si je me souviens bien.
Ouais, Lost Star, ouais.
Mm. Moi, je mentionnerais aussi, en partant, avant de parler du contenu, je vais parler du contenant, la couverture.
Mm-hmm.
Je trouve sérieusement la couverture magnifique. Je trouve que ça ferait une affiche de film ou de peu importe quoi magnifique. Si ma fille l'aime beaucoup, je pense que je la ferais peut-être agrandir pour y en faire un poster. Et fait intéressant, c'est la première fois, en tout cas au moins depuis le canon, là, que je préfère la couverture originale aux variantes qui sont sorties. Donc, il y a une variante qui est sortie pour la célébration Chicago. Il y a une variante qui est sortie aussi chez les Britanniques. Et dans les deux cas, je peux pas dire que je suis impressionné. Chez les Britanniques, bon, c'est une photo, un portrait de la reine Amidala, là, vraiment en costume de reine en rouge sur noir. Mm-hmm. Côté Chicago, c'est Amidala en version Clone Wars, ben, ou en version épisode 2, on pourrait dire.
Mm-hmm.
En blanc, là, avec un genre de manteau ou de cape.
Ouais, c'est ça.
Mais vraiment la version originale, là, moitié droite, moitié gauche, moitié reine Amidala, puis moitié Padmé au naturel, là, sénatrice. Vraiment, je souligne là, l'artiste. J'ai pas le nom de l'artiste devant moi, mais je trouve ça très joli. J'ai bien hâte de l'avoir dans ma bibliothèque. Sinon, moi, de mon côté, c'est en audiobook. J'aime ça le préciser là, parce que l'expérience est différente quand même de la lecture. Toi, Jeff, c'était-tu en...
Moi, j'ai lu le livre.
Le livre comme tel? Ouais, ben, c'est bon, on va avoir les deux portraits. Puis je m'étais noté. C'est ceux qui ont la couverture en tête là, ou devant les yeux. Imaginez un pop, un Funko Pop en version couverture de Queen Shadow, donc moitié reine et moitié sénatrice. Moi, je l'achèterais tout de suite. Là. Je trouve trop magnifique. Donc, comme je mentionnais, c'est un young adult. Donc, le concept des young adults aux États-Unis, c'est que le thème, c'est toujours la croissance personnelle du personnage et, bon, à quelque part, des lecteurs. Donc, ça vise pas les enfants. C'est pas jeunesse là, comme mettons les livres qui sortent en bibliothèque verte là, comme aventure dans l'espace sauvage, des choses comme ça.
Mm-hmm.
C'est plutôt les adolescents et les jeunes adultes. Donc c'est pas quelque chose parce que c'est young adult qu'il faut que vous snobiez vraiment pas. Celui-là, il y en a eu d'autres que bon, on se disait ouais, c'est pas tant ado que ça. Celui-là, je dirais que ça vise quand même assez juste. Moi, tout le long du récit, j'ai eu l'impression que le public cible, c'était les adolescentes et les jeunes femmes. Tu sais, au sortir de l'adolescence, ou en tout cas, la jeune adulte.
Mm-hmm.
Après la lecture, après l'avoir complété, je dirais que ça vise essentiellement trois caractéristiques, ou en tout cas trois types de fans de Star Wars. Donc, les jeunes, les femmes et les fans du personnage de Padmé.
Ouais.
Comme personnellement, je suis pas du tout un fan de Padmé. Je suis de moins en moins jeune. En tout cas, le moisi dans ma barbe là, me le rappelle tous les matins. Et je suis aussi féminin qu'un tracteur. Je pense que ce livre-là me visait pas au départ comme public cible. Évidemment, je suis quand même tout à fait capable là, de passer outre le fait que je suis pas le public cible puis d'apprécier une œuvre quand même. Mais je dois dire que ce livre-là était beaucoup autour des relations d'amour, d'amitié, la relation professionnelle, etc., entre jeunes filles au début du livre et jeunes filles qui vieillissent, qui deviennent des femmes, etc. Donc, personnellement, j'avais pas beaucoup de repères pour m'y retrouver ou m'y reconnaître, etc., comprendre toutes les références, etc. On va le dire, c'est un livre très différent du reste de l'univers Star Wars. C'est vraiment un récit de développement de personnages très très introspectif. Ceux qui auraient lu, je vous dirais que ça se rapproche là, de pour ce qui est dans le canon Star Wars, c'était comment ça s'appelait en français, Les Gardiens des Wills. Donc le livre sur Baze et Chirrut, c'était un autre livre young adult où c'était de l'introspection du développement des deux personnages, mais il n'y avait rien d'épique, il n'y avait pas de grosse bataille comme tu disais tantôt, Jeff.
Mm-hmm.
C'est ça, autrement dit, il se passe pas grand chose. Il n'y a pas de grandes intrigues ou de grands combats intersidérales, etc. Donc, les lecteurs de Star Wars qui ne jurent que par des combats d'épée laser, l'influence de la force, le basculement du destin de la galaxie, là, puis une super arme qui explose à la fin.
C'est pas pour vous.
On n'est pas là. On n'est pas là-dedans. Du tout, du tout. Sinon, ben, juste à la lecture du résumé, etc., on s'attendrait à un livre politique.
Ouais.
Donc, sur l'aspect politique, je sais qu'il y en a qui vont trouver que le livre est très politique. Les gens qui dans leur quotidien, leur personnalité, ils sont pas politiques eux-mêmes, vont peut-être trouver que le livre est très politique. Personnellement, j'ai trouvé que c'était pas tant le cas. Je dirais que ça l'est pas mal moins que Bloodline, qui mm-hmm. déjà l'était pas assez à mon goût.
Mm-hmm.
Et Bloodline, là, en français, c'était Lien du sang de Claudia Gray. Et ça l'est même moins que beaucoup d'épisodes de la série Clone Wars, qui était quand même très très politique, là, les épisodes de Clone Wars qui étaient centrés sur Padmé.
Oui.
Donc, c'est ça. J'ai été surpris par le peu, en fait, de la petite place de l'aspect politique dans ce livre-là. On est très très loin de House of Cards. attendez-vous pas à de quoi de compliqué et de dur à comprendre. C'était pas ça le but, puis probablement que c'est à cause du public cible visé aussi. On a quand même... Ce que j'ai trouvé intéressant, pour rester sur, un peu près sur le thème politique, c'est la présence du phénomène du traitement médiatique très différent réservé aux femmes en politique.
Mm-hmm.
Mm-hmm. C'est clair que c'est une référence à notre monde réel. C'est un phénomène réel.
Ouais.
Que c'est pas tant une question de féminisme ou quoi que ce soit. C'est un phénomène largement démontré, étudié, etc. Et c'est un phénomène qu'on voit encore aujourd'hui et qu'on voit partout dans le monde.
Ouais.
Donc, c'est le politologue qui parle, là, mais bref. Ça, j'ai trouvé ça quand même intéressant de le retrouver. Puis du côté positif, je dirais aussi la panoplie d'easter eggs, de références, de caméos des épisodes 1, 2, 3 de la série Clone Wars. Clone Wars, là, pas mm-hmm. du premier dessin animé. Puis même du livre, il y a quand même certaines références à Leia, Princess of Alderaan. Tout ça mis ensemble, je vais garder le reste pour la partie spoilers. Mais pour résumer, je dirais que j'ai pas détesté Queen Shadow, mais que ça sera pas mon préféré. Ça sera pas mon pire, ça sera pas mon préféré du tout, par contre. J'ai vu des critiques sur Internet assez aux extrêmes, assez opposées. Il y a beaucoup de critiques qui disent que c'est ça, il se passe rien, c'est plate, etc. Et j'ai vu beaucoup de critiques de femmes et de jeunes femmes qui étaient dont enthousiastes, qui disaient c'est le meilleur livre du canon, et j'attendais ça depuis 20 ans. Donc, tu sais, les fans, comme je disais tantôt, du personnage de Padmé depuis toujours, qui s'y reconnaissaient, qui ont grandi avec la série Clone Wars, clairement, là, vont être servis avec ce livre-là. Donc, c'est pas parce que moi, c'est pas mon préféré que ça peut pas être le vôtre. C'est une question de quel est votre intérêt dans la saga, dans l'univers Star Wars. Fait que c'est ça, je le conseillerais à tous les fans de Padmé. Et puis tu sais, je sais qu'ils sont nombreuses quand même, je pense que c'est quand même relativement sous-estimé. Donc je vais tout de suite lui donner une note, Jeff. Moi de mon côté, je donnerais quand même un bon 70%.
Okay.
Donc quand même un 14 sur 20, autrement dit. Malgré mon manque d'intérêt pour le concept, le thème, le personnage, etc. Je trouve que c'est quand même pas si mal malgré mon manque d'intérêt.
De mon côté, je suis un peu de du même avis que toi. C'est un livre que je m'attendais à plus. Je sais pas, peut-être à cause de la description du livre, parce que la description te laisse entendre, te laisse sous-entendre qu'il y a peut-être une intrigue hein, qui se déroule. Mm-hmm. Ce qui est pas le cas. Il y a une sorte d'histoire. Il y a comme deux histoires, finalement, dans le livre, qui sont comme interreliées. Mais il y a pas, là, c'est pas le livre où que tu veux vraiment savoir ce qui se passe, puis tu sais, là, j'ai hâte de voir c'est quoi le mystère de l'histoire ou quoi que ce soit. C'est pas du tout ce genre de livre-là. C'est plus, comme tu dis, c'est une histoire où ce qu'on apprend, on en apprend beaucoup plus sur Padmé. On en apprend aussi sur ses gardes du corps, ses adjointes qui sont toujours avec elle. Même que au début, parce que le livre il est divisé en 5 parties. Et la première partie qui est comme dédiée à la fin de son règne en tant que reine, écoute, c'est comme un c'est juste elle et ses assistantes, mais ils ont tous le nom qui finit de la même façon. Puis à un moment donné, puis moi je le lisais, là, fait que je sais que c'était ça, apparemment que c'était pire pour ceux qui l'écoutaient. Là.
Ouais, mais c'est clair. C'est comme, ça vient mélangeant.
Ouais, tu sais plus c'est qui parle. Là. Cordé a dit ça, Sabé a dit ça. Ta-ta-ta-ta. Tu sais, là, c'est comme.
Mm-hmm.
Ok, mais puis tout ça, mais il se passe rien. Mais tu comprends, tu sais, pourquoi qu'eux autres sont là? Pourquoi qu'ils assistent Padmé? T'sais, comment que Padmé les voit, puis tout ça. Puis ça, je trouvais ça, c'est quand même intéressant, parce que t'sais, de ce qu'on voit dans la prélogie, puis de ce qu'on voit dans la un peu moins dans la guerre des clones, hein, les adjoints de Padmé sont un peu moins présents dans la série La guerre des clones qu'ils sont dans les films. Là. Donc, ça, je trouvais ça cool. L'autre chose que je trouvais le fun, on va peut-être en parler un peu plus tard dans les spoilers, mais on comprend pourquoi que, t'sais, les habillements de Padmé, là, c'est tout le temps comme grandiose, comme la grosse coiffure ou les couronnes, puis les grosses robes, puis tout ça. T'sais, on comprend pourquoi qu'elle s'habille comme ça. C'est pas juste, t'sais, c'est pas une parade de mode. Il y a un but en arrière de ça.
Mm-hmm.
Que ça, je trouvais ça cool parce que ça, je trouvais que ça avait beaucoup de sens. De la voir, t'sais, ce que je trouvais cool aussi, c'est que quand elle arrive au Sénat. Puis elle commence à être sénatrice. Elle est très naïve, hein. Elle rentre dans un monde totalement différent que ce qu'elle vivait en tant que reine sur Naboo, là.
Mm-hmm.
Puis, tu sais, elle commence à voir aussi que Palpatine, il est peut-être pas l'ami qu'elle pensait qu'elle avait. Fait que ça, je trouvais ça cool. Pour moi, ce qui rachète le livre beaucoup, c'est l'épilogue. Pis c'est vraiment banal parce que l'épilogue a duré juste 5 pages. Mais de ce qui se passe dans l'épilogue, pour moi, j'ai comme fait waouh. Tu sais, là, c'est. Puis on va en parler dans la section spoilers, donc je vais pas rien dire en ce moment. Mais ça, je trouvais ça, l'épilogue, j'ai trouvé comme ok, pour moi, c'était la meilleure partie du livre. Là. C'est ça. Fait que je veux pas trop aller en détail parce qu'il y a beaucoup de spoilers, puis je veux pas le gâcher pour ceux qui ne l'ont pas lu. Ou qui veulent garder la surprise puis le lire. Mais c'est un bon livre. C'est pas... comme je vous dis, c'est pas le meilleur Star Wars. Mais c'est pas le pire non plus. On a lu beaucoup pire. Surtout dans le nouveau canon. Donc, moi, ma note, je donnerais un 15 sur 20. C'est un bon livre, comme je vous dis. Si vous aimez Padmé, comme t'as dit Francis, lisez-le, ça vaut vraiment la peine. Mais attendez-vous pas à ce qu'il y ait une grosse intrigue ou une grosse histoire, parce que c'est vraiment pas ce type de livre-là. Mais de savoir, là, de voir l'évolution de Padmé en tant que, tu sais, jeune sénatrice jusqu'à la fin du livre où vraiment on la voit qu'elle devient la politicienne féroce qu'on voit dans l'attaque des clones. Donc ça, c'est cool de voir cette évolution-là de Padmé. Donc pour ça vaut... vraiment la peine de lire.
Parfait. À ce moment-là, si on passe à la section spoilers,
oui.
Donc avertissement, ceux qui voudraient le lire, vous reviendrez écouter le reste de l'émission par après. Ceux qui voudraient attendre la version française, ben, je vous dirais que vous avez le temps d'oublier complètement tout ce qu'on va dire là d'ici à ce qu'elle sorte. Évidemment, la liste de ce qui va sortir en 2020 n'est pas encore disponible, mais bon, il y a quand même quelques livres aussi là, sur le listing, dont Ahsoka, comme je disais tantôt, qui n'est pas encore là, Leia, Princess of Alderaan, etc. Donc, on verra qui c'est. Par contre, c'est vrai que là, la ressortie ou le retour de la série Clone Wars, de la saison finale de Clone Wars, remet des personnages comme Ahsoka, comme Padmé, etc. sur l'actualité, on va dire.
Mm-hmm.
Donc, qui sait, peut-être que celui-là va arriver plus vite qu'on aurait cru. Mais bref, pour la section spoilers, je vais commencer par en rafale un listing des personnages principaux qui se trouvent à être tous des personnages, ou presque là, vraiment, là, sauf peut-être... une exception, c'est des personnages qu'on connaît déjà. Donc, on a vu dans l'épisode 1, l'épisode 2 ou l'épisode 3, ou dans la série Clone Wars.
Mm-hmm.
Donc, évidemment, bon, Padmé, pas besoin de le mentionner ou de la présenter, mais on a toute sa famille, donc son père, sa mère, son frère et sa sœur, mm-hmm. Qu'on avait déjà vu lors de ses funérailles dans l'épisode 3, mais aussi dans une une ou en tout cas plusieurs scènes coupées de l'épisode 2, ceux qui se souviendront d'Anakin là, qui mange souper de famille ou dîner de famille avec la famille de Padmé.
Puis qui est jaloux d'un cadre que Padmé a le sommet.
Oui, effectivement. Des cadres animés, numériques. Puis aujourd'hui, on a tout ça là, disponible, alors qu'à l'époque, on se disait « c'est donc bien hot! »
Ouais, c'est ça.
Mais bref, deuxième personnage principal, on l'a mentionné tantôt dans le résumé, elle s'appelle Sabé, donc c'est la seconde de Padmé. Je dirais que quand même un bon, peut-être le tiers du livre qui est sur Sabé.
Au moins, ouais.
Tu sais, c'est vraiment le personnage secondaire. Pour ceux qui ne replaceraient pas, c'est la doublure de Padmé, donc c'est toujours elle qui prenait sa place là, dans l'épisode 1.
Mm-hmm.
Si je ne me trompe pas, par contre, il me semble qu'elle n'est pas présente du tout là, dans l'épisode 2 après ou dans Clone Wars non plus.
Non.
Mais bref, Sabé, c'est sa servante principale. Je dis servante, dans le fond, c'est ça, c'est qu'au début du livre, elle est encore reine. Donc, c'est vraiment des servantes. Puis là, elle se dit, après ça, comme sénatrice, ben, les sénateurs n'ont pas de servante, mais ça devient, comme tu disais, peut-être plus des adjointes. On va dire adjoint administratif, là. C'est un terme à la mode en ressources humaines.
Ouais, ça c'est comme le terme officiel, mais elle les utilise pour d'autres choses.
Là. Ah ouais, c'est des gardes du corps, des espionnes,
ouais,
des,
c'est ça.
Ils font tout. Là. D'ailleurs, Sabé, on pourrait dire, là, moi je la comparais beaucoup, je parlais de House of Cards tantôt, ceux qui ont pris la série, le personnage principal justement a son chef de cabinet là, qui fait souvent la sale job pour lui.
C'est vrai, tout c'est en vrai.
Puis dans le monde politique, c'est toujours ça. Hein. Tous les grands personnages politiques ont un ou une second, un aide de camp, etc., là, de confiance. Là, tu sais, le terme chef de cabinet, là, dans la plupart des démocraties occidentales, là, c'est ça. Là. Chef de cabinet, c'est des affaires. Là.
Non, t'as tout à fait raison. C'est vrai, c'est vraiment un bon parallèle.
Sinon, ensuite, tu disais tantôt le nom des autres servantes qui se ressemblent toutes. Donc, on a Dormé, on a Cordé, ça c'est celle qui meurt sur la plateforme là, au tout début de l'épisode 2. On a Versé, on a Saché, Yanné, Irté et Rabé. Donc, on les voit toutes dans l'épisode 1, là, mais on les oublie vite.
Dormé, on la voit aussi dans l'attaque des clones, c'est elle qui, quand que Padmé s'en va avec Anakin dans le comme le vaisseau de réfugiés. Donc c'est elle qui est avec Padmé là, dans le genre d'autobus là, alors que Obi-Wan parle avec Anakin.
Mm-hmm.
C'est elle Dormé.
Exact, j'ai plus le nom de l'actrice en tête non plus, mais il me semble que c'est une actrice qu'on a revue souvent là, par après là,
ouais.
Maintenant. Ensuite, évidemment, là, t'as nommé tantôt Palpatine. Personnellement, j'ai pas été impressionné par la version de Palpatine de l'audiobook. Au niveau de l'élocution, tout ça, on n'y était pas vraiment.
Mm-hmm.
C'était une femme qui fait la lecture du livre. Et, c'est certain qu'il y a une voix quand même tellement caractéristique ou tellement, reconnaissable, là, avec Clone Wars, etc. Que ça, c'était légèrement décevant. Mais passons. Ensuite, on a le capitaine Panaka. Ceux qui s'en souviennent, le chef de la sécurité sur Naboo dans l'épisode 1, qui est juste présent au tout début parce qu'on apprend qu'au niveau politique, il est en conflit un peu avec le reste du monde, du milieu politique de Naboo, parce qu'il a beaucoup poussé pour que l'armée se développe, etc. Un arme de défense qu'on reparlera peut-être un peu plus loin. Mais bref, c'est ça fait qu'il s'est retiré et c'est sa femme qui devient plus ou moins chef de la sécurité de Padmé.
Oui.
Donc, histoire de juste mélanger encore plus. Tantôt, tu disais le nom des servantes. Puis là, après ça, on a le nom, c'est pas le capitaine Panaka qu'on connaît, là, c'est sa femme qui s'appelle Panaka aussi.
Ouais.
Donc, bref, ensuite, on a le capitaine Typho, qu'on le voyait dans l'épisode 2, donc c'était comme lui qui remplaçait Panaka dans les films.
Ouais, là, il est sergent. Il est sergent dans le livre.
Ouais, exact. C'est celui qui a un cache-œil de pirate, là.
Mm-hmm.
Donc, qu'on voit, je pense qu'on le voit aussi dans l'épisode 3. Épisode 2 et 3.
Ouais,
ensuite, on a Newt Gunray, donc Monsieur Fédération du Commerce, colérique un peu. Il est pas présent dans le livre, mais on en entend parler à tout bout de champ parce qu'il est en procès et au cours du livre, le résultat du procès tombe. Donc, on a la réaction de Padmé, etc.
Il y a aussi les tentatives de contre Padmé,
c'est ça.
Que lui et la Fédération sont derrière.
Ouais, puis tu sais, c'est toute la série clonoise, ça continue. Même dans l'épisode 3, là, on le retrouve encore. Mm-hmm. On a sa marionnette au Sénat, le sénateur Lott Dodd, qui est présent dans le 2 et aussi beaucoup dans la série clonoise. On a les sénateurs, bien sûr, Bail Organa et Mon Mothma.
Mm-hmm.
Donc, c'est dans les deux cas, je dirais que c'est une amitié avec Padmé et une confiance qui se développe au fil du roman. Au début, il y a une méfiance.
Oui, exactement. Parce que Bail, il voit qu'elle est proche de Palpatine. Donc, c'est ça qui fait qu'il est très froid avec elle, hein, au début. Mm-hmm. Et puis, peut-être, on peut expliquer que la première fois qu'elle rencontre Padmé, elle a un robot qui est comme un guide, qui est comme son assistant, qui est un guide, puis là, il lui dit « Ok, faut que tu te rendes au rendez-vous pour faire la visite des bas-fonds du Sénat. » Puis, dans le fond, c'est comme le robot a été reprogrammé, hein, c'est comme une tentative d'assassinat contre Padmé. Puis c'est Bail Organa qui est là, même est comme dans les bas-fonds, lui, avec. On sait jamais pourquoi il était là. Mais lui, c'est ça, c'est lui qui sauve dans le fond, Padmé qui envoie le droïde se faire réparer.
Mm-hmm.
Puis c'est ça. Donc c'est sa première rencontre, mais il est très froid avec elle. Hein. Il parle à peine, il la regarde pas.
Ouais, ben c'est ça. Comme tu disais, elle est vue comme une marionnette de Palpatine, ce qui est quand même assez logique.
Mm-hmm.
Même si on ne sait pas, peut-être qu'en coulisses, c'est lui qui a poussé pour qu'elle aille là, mais de la manière que le livre est fait, c'est pas dit clairement. C'est vraiment la reine de Naboo qui lui demande de devenir sénatrice et non le chancelier comme tel. Il faut dire aussi, ce qui est beaucoup mentionné, c'est le fait que, du point de vue du Sénat, elle est vue comme une brasseuse de marde. Donc, eux l'ont uniquement connue comme la reine qui est venue proposer une motion de défiance du chancelier Valorum. Qui a vraiment... En tout cas, le livre décrit ça. Tu sais, dans le film, ça passe en deux minutes, on passe à autre chose. Mais là-dedans, c'est vraiment décrit comme si ça avait complètement foutu le bordel au Sénat.
Ouais, ça a tout chambardé.
Cette motion-là. Fait que là, elle est vraiment vue comme ça. Et Bail Organa et Mon Mothma sont deux sénateurs qui ont une vision très globale, on va dire, de leur rôle de sénateur. Donc, ils se considèrent pas juste comme des... Tu sais, au service de leur propre planète ou système. Ils se voient comme au service de la galaxie ou de la République. Et l'image que Padmé a là au début, ben c'est ça, c'est celle qui va juste s'occuper de Naboo. Puis tant pis pour le reste, là, même si je fous le bordel partout. Donc, c'est ça. Mais ça se développe au fil du récit, c'est quand même intéressant. Je mentionnerai tout de suite aussi le Brea Organa, donc la femme de Bail, reine d'Alderaan, qu'on voyait là, dans l'épisode 3 puis dans The Clone Wars. Et ceux qui ont suivi un peu la saga Star Wars savent que c'est la mère adoptive de Leia. Donc, qui développe, bon, on pourrait dire, développe une certaine amitié aussi avec Padmé. Les deux femmes ont en commun qui ont assuré une monarchie, même si celle de Naboo est élective. Ça reste là qui jase pas mal des responsabilités rattachées à ça, puis du rôle, puis des sacrifices qu'il y a à faire aussi là, pour occuper ces places-là là, de reine. Donc,
puis moi, ce que c'est quand même intéressant. Ouais, puis moi, ce que j'ai aimé de tout ça, c'est qu'on comprend pourquoi que Bail décide d'emmener Léa sur Alderaan.
Mm-hmm. Ouais.
Je trouvais que c'était un lien qui était vraiment cool à faire. Là.
Ouais, ben c'est ça pour la... Je vais dire pas la survie, mais la continuité du nom Organa.
Ouais, c'est ça.
De la lignée Organa. Elle disait, c'est ça, que même si ce serait... puis c'est ça que ça va être, là, une adoption. Même si c'était plutôt une adoption. Dans le fond, les grandes familles d'Alderaan accepteraient quand même. Là, tant qu'il y a un héritier de la famille Organa.
C'est ça.
Ensuite, j'enchaînerai avec une Jedi, histoire de mettre un minimum d'action dans le livre. Donc, la Jedi Depa Bilaba, donc la future maître ou maîtresse, là, je sais pas comment faut le dire, du jeune Kanan.
Mm-hmm.
Donc, mais à l'époque, c'est, il s'appelle Caleb Doom. Donc, qu'on aperçoit quand même dans pas mal, tu sais, un peu partout, l'épisode 1, l'épisode 2, les comics Kanan. J'ai noté aussi les livres Sombre Apprenti, le livre Une Nouvelle Aube, qui était aussi sur Kanan. Et apparemment, elle apparaît aussi, je ne sais pas à quel point son rôle est grand, dans le tout nouveau Master and Apprentice sur Qui-Gon et Obi-Wan. Donc, c'est une Jedi qui, dans les films, n'avait pas un gros rôle, mais j'ai trouvé intéressant de l'avoir en pleine action dans ce livre-là.
C'est elle qui avait perdu dans l'ancien canon, qui est rendu légende, qui était comme pas devenue folle, mais qui c'était à quel livre? Shatterpoint, je pense.
Je n'aurais pas dit.
Le livre sur Mace Windu. Hein? Je sais pas si tu as lu les anciens livres, là,
pas tous, non.
Ok, c'est ça. Elle était comme pas rendue folle, mais il est arrivé quelque chose, puis elle était comme. Elle s'était isolée sur une planète, puis elle était comme. Elle était rendue comme vraiment bizarre. Écoute, je me souviens pas 100% de l'histoire, je peux pas dire exactement c'était pourquoi. Puis là, Mace Windu, lui, essayait d'aller la retrouver. C'était le livre était consacré à Mace Windu. C'était un excellent livre. C'était, je sais pas si c'était le premier livre de Matthew Stover. C'était Matthew Stover, l'auteur. Mm. Mais en tout cas, de toute façon, ça fait même plus partie du canon. Fait que...
Mais je dis que ça faisait du bien de l'avoir en action, mais dans le fond, c'est vrai que dans les comics, les excellents comics de Kanan, ceux qui les ont pas lus, je vous les conseille. C'était quand même très intéressant là, c'est parce que le livre c'est justement le moment de l'ordre 66 là, comment Kanan, ben Caleb Doom quand il est enfant le fait pour survivre, c'est grâce justement à Depa Bilaba. Mm-hmm. Donc je vous spoilerai pas les comics, je vous invite à aller lire ça. Sinon j'enchaînerai ensuite avec le vilain Mass Ameda, donc conseiller du chancelier, qui quand on fait la liste de ses apparitions dans le canon, ça, c'est quand même important là. Il y a l'épisode 1, 2, 3, amplement présent aussi dans la trilogie Riposte dont je parlais plus tôt en émission, donc t'sais, du début à la fin de l'Empire, puis même avant, déjà dans l'épisode 1 il était là. J'ai trouvé intéressant là, que Padmé le déteste, puis elle comprend pas pourquoi Palpatine l'a gardé comme conseiller le principal après la chute, on va dire, de Valorum. Ensuite, on a le sénateur Ona Kondafar, donc un Rodien. Si le nom vous dit rien, c'est celui que Padmé appelle, ou en tout cas considère comme son oncle.
Ouais.
Donc elle l'appelle toujours mon oncle. Ouais, fait que qui apparaissait quand même dans l'épisode 1 et 2, ça je m'en souvenais pas du tout, mais qui apparaît dans beaucoup d'épisodes de la série Clone Wars. Ensuite, on a le sénateur Rush Clovis, qui apparaît dans la série de Clone Wars dans des épisodes que beaucoup de gens malheureusement ont pas vu, dans la saison, la dernière saison qui était comme une demi-saison, ça s'appelait les Missions Perdues, Lost Mission. Je pense qu'il y avait quoi, 9 épisodes peut-être, non, une dizaine d'épisodes.
Ouais.
Mais bref, il y a 2-3 épisodes avec Rush Clovis, c'est un sénateur du clan bancaire, je pense, comme ça. Et Anakin est très jaloux.
Mm-hmm.
Moi, ce que je me souvenais de la série, c'est qu'il y avait déjà eu quelque chose. En tout cas, c'était vraiment comme si c'était l'ex partenaire de Padmé. Mais en tout cas, pas dans ce livre-là.
Mais il s'essaye dans le livre.
Oui, c'est ça, il s'essaye. On va revenir plus tard. Je voulais mentionner ce bout-là. Mais c'est ça, c'est un nouveau. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un sénateur qui arrive lui aussi au Sénat en même temps que Padmé. Donc, c'est vraiment une recrue. Fait que les deux ont en commun là, de faire leur début, puis de toute leur naïveté aussi, puis tout ça, là, en arrivant en politique. Il y a la sénatrice Mina Bonteri aussi qui est très présente. C'est une amitié qui se développe là aussi. On sait que dans la série Clone Wars, c'était des amis justement Padmé et Mina Bonteri. C'est elle qui est sénatrice, mais du côté des séparatistes dans la série. Donc, tout l'arc où est-ce qu'on voit le parlement des séparatistes, là, qui est une... on s'entend une inspiration à 200% du Parlement britannique. Mais donc, parce que du côté de la CSI, la Confédération des systèmes indépendants, eux aussi ont leur propre démocratie de leur bord avec des sénateurs, etc. Donc, au moment de Queen Shadow, ben évidemment, c'est avant la guerre des clones. Donc, Mina Bonteri est encore sénatrice. A déjà des vues très... comment dire, très arrêté sur l'inefficacité de la République et la corruption de la République. C'est la mère aussi du célèbre, si on peut dire, Lox Bonteri, qui est mentionné seulement dans le livre, qu'on voit plusieurs fois dans la série clonoise, qui a quand même un certain rôle à jouer dans la création, si on peut dire, du guerriero Sa Guerrera. Et qui, on sait l'importance que Sa Guerrera a après pour la suite canon. Donc, c'est intéressant de voir la chaîne là, qui part de là. Et bon, en lien avec Mina Bonteri, deux fois au moins, peut-être plus, là, tu me corrigeras, Jeff, mais on a un des caméos du comte Dooku, mais sans que ce soit dit.
Oui.
Donc, ceux qui ont suivi la série de Clone Wars comprendront que c'est ça, Mina Bonteri. En fait, Padmé entend des conversations, donc elle ne voit rien, mais elle entend que une voix là, qui lui fait peur, si je ne me trompe pas, etc. Et bon, on en comprend que c'est Dooku et qui, pas nécessairement manipule Bonteri, mais en tout cas, tire déjà un peu les ficelles, prépare la création de la Confédération des systèmes indépendants puis la sécession à venir. Et bon, comme dernier personnage qu'on peut pas ne pas nommer, c'est R2-D2. Donc, peu présent, peut-être trop peu présent, mais quand même, l'auteur l'a amené pour montrer, là aussi, le début de la relation de Padmé avec R2-D2. Padmé qui commence dans ce livre-là à trouver l'utilité de R2, puis de réaliser son potentiel comme garde du corps, comme espion, quasiment comme adjoint administratif. Donc, je trouvais ça intéressant, mais attendez-vous pas à R2-D2 en version action, là, comme on le voit dans le reste de Star Wars. C'est vraiment pas le cas. Mais faut se souvenir que c'est ça, à ce moment-là de la timeline de Star Wars, R2 est encore tout simplement un droïde des forces de sécurité de Naboo. Donc, dans l'épisode 1, il y a un rôle présent à cause d'Anakin, mais Anakin ne part pas avec R2.
Non.
Fait que c'est juste dans l'épisode 2 qu'il retrouve, quand il retrouve Padmé, justement, pour assurer sa sécurité.
Mm-hmm.
Donc, je trouvais ça intéressant quand même que l'auteur l'ait ramené. Mais tu sais, quand tu fais le total, là, ça fait beaucoup de caméos. Là.
Ouais.
Je trouve qu'il y a, tu sais, pour un livre relativement petit aussi, là. Ça en fait des caméos, là. C'est plus que dans la majorité des livres, même les livres de prélogie, là, à mon avis. Sinon, est-ce que tu voulais enchaîner avec l'histoire?
Ouais, ben, je pense qu'on peut enchaîner avec des petites choses qu'on a remarquées, puis on peut peut-être plus développer à ce moment-là ce qu'on a remarqué. Donc, si j'y vais, par exemple, on y va avec Tatooine. Tatooine joue quand même un rôle pas super important, mais quand même important. Donc, Tatooine est mentionné. La raison est que lorsque Padmé contemple ce qu'elle veut faire une fois son règne de reine terminé, elle veut aller sur Naboo et libérer les esclaves.
Sur Tatooine?
J'ai dit Naboo. Ouais, Tatooine, c'est vrai, Naboo, les autres sont corrects. Non, c'est ça, elle veut retourner à Tatooine, libérer les esclaves. Principalement la mère d'Anakin, Shmi. Donc, c'est à ce moment-là, vu que la reine demande à Padmé d'aller en tant que sénatrice au Sénat sur Coruscant, Padmé envoie Sabé sur Tatooine. Et il se rend compte que c'est pas facile, hein, libérer des esclaves sur Tatooine. Je pense qu'il réussit à en libérer un total de 25.
Ouais.
25 esclaves. Et il ne trouve pas Shmi. Donc, Shmi ne reste plus à l'endroit qu'elle restait avec Anakin dans l'épisode 1. Elle n'est plus là. Donc ça veut dire que Watto l'a déjà vendu à Lars, à la, je sais plus comment il s'appelle.
Ouais, ben c'est ça, nous, nous on sait cette information-là, mais elle, elle ne sait pas.
Non, c'est ça.
Fait elle, dans son rapport qu'elle fait à Padmé, elle dit que, c'est ça, elle est juste plus là, puis c'est ça, elle n'a pas réussi à retrouver sa trace.
C'est ça. C'est ça, exactement. Donc, ça, je trouvais ça cool. Il n'y a pas de... On voit pas Anakin. Il n'y a pas de mention d'Anakin. Le seul lien qu'il y a avec Anakin, c'est justement c'est le fait que Padmé tente de libérer sa mère.
Mm-hmm.
Fait que ça, je trouvais ça que c'était un lien super cool là, avec l'épisode.
Ben, ouais, puis tu sais, à quelque part, ça, encore une fois, ça vient combler une des questions ou une des choses qu'on trouvait moyennement logique. C'est un commentaire qui revenait quand même de temps à autre. Pourquoi personne t'est jamais retourné libérer Shmi, tu sais?
Ouais, c'est ça.
Pas vrai.
Ouais.
Mais c'est ça. Donc Padmé a bien essayé, mais malheureusement, ce fut un échec. Mais bon, comme lecteur, on sait que en fait, elle est déjà libre à ce moment-là.
Mm. Quel autre point que je voulais aborder? Ah oui, j'en ai parlé un peu dans ma critique, les habillements de Padmé. C'est vraiment un point banal, il en parle pas dans deux lignes, mais je trouvais ça vraiment intéressant. Donc, tu sais, Padmé qui est tout le temps habillé, c'est grandiose, hein, ses habits, c'est vraiment comme les grosses coiffures, les couronnes, les grosses robes, mais il y a un but dans tout ça. C'est que à cause de ça, le monde ne porte pas attention à son visage. Et c'est ce qui lui permet qui permet à ses gardes du corps, donc surtout Sabi, de pouvoir changer de rôle avec elle sans que le monde s'aperçoive que c'est pas la vraie Padmé qui est là.
Mm-hmm. Ouais, ben ça détourne l'attention aussi des autres servantes, c'est ça qui peuvent espionner ou peu importe.
Exactement.
Là, faire les autres petits trucs.
Mm-hmm.
Il y a les autres, je sais pas si tu voulais parler aussi des gadgets, on va dire, ou des autres fonctions de ces accoutrements.
J'ai un blanc.
Parce que dans le fond, c'est ça, on apprend aussi que les tenues puis les chapeaux énormes puis les choses comme ça cachent souvent des gadgets électroniques, des systèmes d'enregistrement.
Ah, ouais.
Que souvent aussi les robes sont renforcées pour résister à des tirs de blaster.
Mm-hmm.
Donc, c'est des robes par balle.
Oui, c'est ça, exactement.
Ben, par balle, par blaster, ouais, par plasma. Puis, j'ai trouvé ça, tu sais, un peu comme tu disais dans ton intro, j'ai trouvé ça intéressant, justement, de venir justifier tout ça. L'aspect détournement d'attention, comme tu disais, est parfaitement logique.
Oui.
C'est vraiment, quand tu connais leur dynamique là, de leurre, tu sais, de leurrer les gens, comme on le voit dans le premier film. Ben, c'est vrai que là, toute l'attention est attirée vers, comme tu dis, les couleurs, les brillants, etc. Et bon, là, les autres, en tenue discrète, peuvent faire leurs petites affaires.
Mm-hmm.
Il y avait même aussi une des robes, en tout cas, il me semble que c'était mentionné, qui avait un système, justement, pour pouvoir interchanger facilement avec Sabé. Donc, que ça soit pas difficile à enlever, puis à, tu sais, pour pouvoir changer de rôle super vite. Là. Fait que, c'est ça, je trouvais que ça s'inscrivait dans la logique, là, la stratégie qu'il y avait. Par contre, c'était peut-être très très présent, là, les coiffeurs puis les robes. Là, je sais que j'ai lu aussi certains commentaires de jeunes femmes, entre autres, là, qui disaient « Bon, c'est correct, on a compris. »
Ouais.
À se recoiffe. À... Puis tu sais, des fois aussi, c'est dans les conversations. C'est que c'est ce que Padmé dit à Bail Organa ou à d'autres, là, OK, faut qu'une telle arrange mes cheveux ou faut que ça a été long à arranger la robe. Ou... fait que c'est quand même très présent dans le livre.
Là. Ouais, puis une chose aussi par rapport à ça, c'est Bail, lui, il est capable. Je pense c'est expliqué à un moment donné que lui, il, à un moment donné, c'est pas Padmé qui est devant lui, puis c'est Sabé, puis là, lui, il doute que c'est pas la vraie.
Mm-hmm.
Justement parce que lui, tu sais, ça l'explique un peu avant dans comme la première rencontre qui sont les deux tout seuls là, dans les jardins de Coruscant là, parce que Padmé veut se joindre à un comité qui lui puis Mon Mothma dirige là. Dans le fond, elle veut joindre le comité juste pour donner un peu de contexte, elle veut joindre le comité parce qu'elle veut se détacher de Palpatine. Elle veut comme le défi un peu, comme ça le monde va pas avoir l'impression que justement elle est la marionnette de Palpatine, puis que tu sais, elle est sa propre personne. Donc lorsqu'il parle, lorsqu'elle veut embarquer dans le comité, elle parle à Belle, puis il se promène comme dans les jardins du Sénat. Donc c'est ça, je trouvais l'auteur pas beaucoup de détails sur le fait que t'sais, Belle, il observe beaucoup Padmé, il la regarde dans les yeux, il porte pas attention à ce qu'elle porte ou quoi que ce soit. Puis là, on comprend pourquoi, parce qu'un peu plus tard, justement, quand il y a Sabé qui lui parle, ben lui, c'est comme il doute que c'est. Il trouve qu'il y a quelque chose qui est pas correct, que c'est pas Padmé.
Ouais, je me souviens pas. Je suis en train de penser, je me souviens pas exactement pourquoi elle avait choisi, viser ce comité-là en particulier. Je sais que dans le fond, là, pour revenir à Palpatine, c'est qu'elle, justement, elle voulait s'occuper de tout ce qui est esclave puis abolition de l'esclavage, tout ça. Et c'est Palpatine qui lui demande de pas le faire parce qu'il est déjà en train de le faire. Puis que, vu qu'ils viennent tous les deux de Naboo, là, ça allait porter ombrage, dans le fond, à ses actions, etc. Donc, c'est pour ça qu'il a choisi un autre comité. Et pour vous donner un aperçu à quel temps on vous disait en début d'émission que le livre n'est pas une histoire épique, grandiose, etc. Elle essaie de joindre le comité de la sécurité du transport de matériaux de construction.
Ouais, c'est ça.
Et souvent, ce qui revient là, plusieurs fois dans le livre, c'est le problème sur le transport du béton.
Ouais.
ça me donne une idée. On n'est pas dans l'étoile de la mort. Là, pis...
ouais, mais ben, ils se font attaquer, pas attaquer, mais il y a des pirates qui sont impliqués là-dedans.
Ouais. Mais tu sais, étant moi-même un employé du gouvernement qui siège sur des comités, etc., là, je me disais, non, mais on est vraiment dans un livre de Star Wars. On est dans une réunion de comité sur le transport du béton.
Ouais, c'est ça. La preuve qu'il y a des comités pour toutes, là, tu sais.
Ah, ouais, c'est. Mais bref, sur ce point-là, tu parlais de Belle, c'est ça qui finit par réaliser que c'est pas la bonne. Là. Je mentionnerais peut-être Qui-Gon, qui est mentionné très souvent. Je ne l'ai pas mis dans un personnage parce qu'on s'entend qu'il est mort.
Ouais.
Mais justement, je mentionnerais le fait qu'il est vénéré comme un libérateur là, sur Naboo. Vraiment, ça s'est mentionné plusieurs fois. Et ce qu'on apprend, c'est que lui-même avait jamais été leurré. Donc, dans l'épisode 1, Padmé a dit que dès le départ, il savait très bien que c'était elle.
Ouais.
Et non une de ses servantes là, qui l'accompagnerait sur Tatooine. Puis tu sais, ça fait du sens aussi, là, parce que Qui-Gon n'était pas quand même le dernier des Jedi.
Ouais.
Mais c'est ça. Ça aussi, ça fait partie des petites choses que dans le film, bon, à l'époque, on se disait comment il peut ne pas savoir que c'est elle.
Ouais, c'est ça.
Bon, fait que c'est ça. Elle a dit qu'il savait depuis le début, mais qu'il la laissait là, faire son stratagème. Là,
ouais, puis ça, on parle un peu avec le lien de l'épisode 1. T'as parlé au début de Panaka. À la fin, il y a une relation un peu plus tendue avec Padmé. Puis ça, c'est dû justement à la construction qu'elle a approuvée, la construction d'un canon, un Iron Cannon. J'ai le terme en anglais, j'ai pas le terme en français. Un peu comme le canon qu'on voit sur Hoth dans l'Empire Contre-Attaque.
Ouais, ben, c'est ça que je trouve particulier parce que... C'est présenté comme si c'était un canon dans le livre, mais c'est ce qu'on voit en action dans le jeu Battlefront 2, dans la campagne. Et dans le jeu, c'est vraiment une arme défensive, on dirait. Là, c'est une affaire électromagnétique pour neutraliser les droïdes.
Ouais, c'est ça. Donc, en tout cas, c'est pas super clair. Hein.
Non, c'est... Mais... le Iron Pulse,
ouais, c'est ça
qu'il l'appelle. Puis, mais c'est ça, tu sais. Puis là, Mon Mothma, elle reproche la construction de ça. Alors que, tu sais, je veux dire, t'as subi une invasion de quelqu'un qui organise des complots pour te tuer, tout ça, là, tu sais. Puis tu te fais reprocher de construire un genre de bouclier ou en tout cas une arme, tu sais, purement défensive, là, que tu peux pas attaquer d'autres planètes avec. J'ai trouvé, tu sais, qu'il y a quand même une limite au pacifisme, tu sais.
Pis,
une limite à dire, allez, amenez-vous, là, tu sais, puis prenez Naboo.
Ouais, c'est ça. La porte est ouverte.
Mais ouais, comme tu dis, il y a un certain conflit avec Panaka, là, que lui.
Il était pas d'accord.
A une vision plus militariste. Ouais. Là, ouais. Mais tu sais, c'est pas dur parce que. Je veux dire. C'est ça, quand tu te fais reprocher de te défendre, c'est pas dur de passer pour le méchant militariste.
Ouais, c'est ça.
Ceux qui le sauraient pas, par contre, on peut peut-être mentionner que dans le canon, le capitaine Panaka finit par devenir grand moff de ce secteur-là sous l'Empire.
Mm-hmm.
Donc le chancelier Palpatine va finir par le nommer grand moff. Donc le capitaine Panaka va relativement bien s'accommoder du régime impérial strict, on va dire.
Ouais. Et une chose aussi, un autre lien que j'ai fait avec l'épisode 2, c'est qu'on apprend dans l'épisode 2, à un moment donné, quand Anakin parle avec Padmé, quand il arrive sur Naboo, il lui dit que, tu sais, Anakin disait, ah, j'ai entendu dire que t'étais une très bonne reine, ton peuple était très content. Ils ont même essayé de te garder pour un troisième terme. Puis là, ce qu'on apprend justement dans ce livre-là, c'est que justement, les comme ces gardes du corps, même Panaka et sa femme, ils ont voté pour Padmé quand ils ont voté pour la reine. Donc, ils écrivaient le nom de Padmé. Même si la loi l'empêchait, c'était pour montrer qu'il aimait mieux garder Padmé que d'avoir une nouvelle reine. Donc, je trouvais que c'était cool. C'est un petit lien avec une discussion qu'elle avait dans l'épisode 2.
Ouais, c'est ça. C'est parce qu'on peut juste mentionner vite que c'est parce que le nombre de termes est limité à 2 sur Naboo. Pis c'est des quand même assez des courts termes.
Ouais.
Par contre...
C'est 2 ans, hein, je pense, les termes.
Ouais, il me semble que c'est des termes de 2 ans.
Ouais.
Mais il y avait eu des cas par le passé de termes rallongés. Là. Il y en a un qui avait été là...
17 ans, je pense.
Ouais, une affaire comme ça, j'allais dire 14-15 ans.
Ouais.
Mais donc, c'est ça, mais Padmé voulait rien savoir. Elle a considéré que l'alternance était une chose essentielle.
Ouais, c'est ça.
Pour rester sur Naboo, je mentionnerais peut-être ce qu'on apprend sur la relation Gungan-Naboo. Donc, on apprend que ça va être la première élection... où est-ce que les Gungan ont le droit de vote.
Oui, c'est vrai.
Et on apprend aussi que quand les Naboo ont les humains ont colonisé Naboo, ils ont déplacé les Gungan. Donc ça, c'est évidemment une référence à l'histoire américaine que vraiment, ils ont toujours repoussé là, les Amérindiens. Mais c'est ça, c'est quelque chose que, tu sais, bon, dans les films et les séries, on voit les Gungan comme des espèces sous-marines à... C'est quand même très éloigné là, des humains. Là.
Ouais.
Mais apparemment, c'est ça. Ils ont été déplacés de leur secteur.
Mm.
Comme si la planète était trop petite.
Ouais, c'est ça.
Bref, c'est ça. Moi, c'est ce que j'avais sur le... Ouais, je m'étais noté le Iron Pulse, les Gungan, Qui-Gon... je voulais revenir tantôt. On l'a mentionné vite là, avec Rush Clovis. Moi, c'est... Tu sais, dans plusieurs livres, il y a des éléments qui te sortent du récit.
Mm-hmm.
Il y a parfois des éléments qui te sortent... Comme dans un film aussi, où tu fais... Ah, oh, là, ça abuse.
Ouais.
Moi, là, c'est le... C'est même pas... Parce que tu disais tantôt que Clovis s'est essayé. Bref, un moment donné, lui, il interprète mal la relation qu'il a avec Padmé.
Ouais.
Comme c'est le cas souvent de jeunes hommes. Au moment où ils célèbrent ou ils vont se faire un câlin, en tout cas se prendre dans le bras, etc., ils lui donnent un bisou.
Ouais.
Sur la bouche, comme des grands. Et bon, jusque-là, je trouve que c'est pas dramatique, c'est pas ça qui me sort du récit. Mais c'est la remarque sur le consentement. Et là, c'est pas une traduction en termes actualité moderne. C'est vraiment dans le livre, il est question de consentement. Parce que là, Padmé est révolté qu'il ait interprété ça comme ça et qu'elle n'a pas donné son consentement là, pour un bisou, etc. Personnellement, je ne sais pas pour toi, Jeff, moi, ça m'a complètement sorti du récit. J'ai fait « Ah, c'était-tu vraiment nécessaire? » Déjà, c'est sorti de nulle part.
Ouais.
Dans le récit, ça arrive, sorti de nulle part. C'est mal amené et c'est pas développé. T'sais, on passe comme tout de suite à autre chose. Là, moi, je me disais, bon, ben, au pire, on va y revenir, tu sais, vers la fin du livre. Tu sais, je sais pas, ils vont se reparler, là, puis elle va le pardonner, ou fouille-moi quoi.
Mm-hmm.
Mais non, il n'y a rien d'autre après. Et c'est tellement actualité féministe, occidentale et surtout américaine. Mais le gars s'excuse de s'être mépris, tu sais, sur leur relation, on va dire. Et je sais pas, Padmé est scandalisée de ne pas avoir reçu une demande officielle de consentement à bisous par fax 3 semaines à l'avance avec la bonne étampe et la bonne signature de tous les parties impliquées sur le formulaire Rose A38 prévu à cet effet. Bref, clairement, il y avait un message personnel que l'auteur a voulu envoyer aux jeunes lectrices du roman.
Ben, je pense que la façon dont je vois ça, puis aussi la façon que les médias entourent Padmé ou parlent de Padmé, je pense que l'auteur elle a essayé de faire un lien, c'est clair, c'est vraiment clair, là. Elle a voulu faire un parallèle avec la situation actuelle dans laquelle on est, donc avec tout le mouvement MeToo puis tout ça, mais aussi avec toutes les fake news que tu sais qui se passe avec le président des États-Unis puis tout ça. Le parallèle, c'est immanquable. Là. Tu fais juste remplacer les noms là, de personnages. Là. Tu changes à un moment donné Padmé pour Trump ou tu changes Padmé pour ceux qui ont été victimes justement d'abus puis de viols. Puis écoute, c'est la même chose. Là.
Ouais, ben tu sais, c'est ça, c'est que. C'est un sujet, comme je disais, ultra actualité. Faut avouer, par contre, tu vois, j'avais pas fait ce lien-là. C'est vrai que le livre est beaucoup sur les médias, etc. On l'a pas mentionné, mais il y a, à tout bout de champ, il y a des petits interludes style flash info actualité. Là.
Ouais, au début de chaque
section.
Ouais, chaque section, ouais.
Puis, ben c'est ça, tu sais, c'est très, très actualité, comme tu dis, les fake news, etc. Moi, c'est ça, tout de suite, j'ai pensé à l'auteur, je cherche son nom, en tout cas le livre Last Shot, qui aussi, encore une fois, avait amené une mini-controverse là, que j'ai trouvé gonflée pour rien, mais tu sais, moi, personnellement, quand ça colle trop, un peu comme la réplique dans l'épisode 3, la fameuse réplique d'Anakin, qui dit « Soit vous êtes... T'sais, vous êtes avec moi, vous êtes contre moi.
Ouais. »
Et Obi-Wan lui réplique, « Le seul un Sith résonne dans l'absolu. » T'sais, c'était la réplique exacte de George W. Bush quelques mois avant la sortie du film. T'sais, comment sortir le monde du récit là, puis le faire « Ah, ça, c'est exactement ce que j'ai vu dans l'actualité l'autre jour. » Je sais pas. Moi, personnellement, j'ai trouvé que c'était trop. Mais je comprends qu'aux États-Unis aussi, c'est peut-être beaucoup plus brûlant comme sujet qu'ici. Mais enfin, bref, ça, j'ai trouvé que c'est dans la catégorie sorti de nulle part. Puis après, on passe à autre chose.
Ouais, c'est et ça, exactement.
On n'en entend pas parler. Ouais. Ouais, fait que tôt ou tard, ils ont dû un petit peu se réconcilier, là, Rush Clovis et Padmé. Hein.
Ben, on les voit dans. Ils se revoient dans la série Clone Wars, right?
Ouais, c'est ça, mais de ce que je me souviens des émissions, j'ai l'impression qu'il y a eu un entre-deux quand même. J'ai pas l'impression qu'ils se revoient pas là, du tout entre les deux. Mais peut-être que c'est moi qui l'a.
Ça fait quelques années déjà. Hein. Mais ouais, c'est ça. Je suis d'accord avec toi. Le parallèle avec la réalité d'aujourd'hui, ça décroche un peu de l'histoire. Hein, tu sais, veux pas. Oui, Star Wars, il y a des termes qui s'appliquent à la vie de tous les jours. Puis tout ça, il y a des thèmes. Tout ça, je suis d'accord là. Mais quand ça frôle trop la réalité, on dirait que ça... Tu débarques de l'histoire, hein, parce que, veux pas, Star Wars, c'est fantastique. Hein, ça t'amène...
C'est immersif.
Ouais, c'est ça. Ça t'amène dans un autre monde. Hein, tu lis Star Wars parce que ça t'amène dans un autre monde, puis tout ça. Puis ça, c'était comme un peu trop proche de la réalité. Puis j'ai rien contre le message que l'auteur essaie de passer. Je veux dire, tous les auteurs font ça, là. C'est juste que celui-là, peut-être à cause de la façon que ça a été fait, c'est comme tu dis, là, c'est comme on passe d'un. C'est comme si on passe de noir à blanc. Puis là, on retourne à noir après. C'est soudain, puis c'est. Comme tu dis, c'est pas élaboré après. C'est comme that's all, on passe à autre chose, puis c'est tout.
C'est aussi que, tu sais. En tout cas, je trouve que c'est tellement culturellement différent déjà dans notre monde. Juste entre la culture américaine ou la culture québécoise ou française ou britannique, juste entre la culture française ou britannique, la différence est énorme. Moi, quand j'ai entendu cette partie-là, je me suis dit que c'est parce que un lecteur russe, là, que même les hommes, quand ils se saluent, là, tu sais, t'as les embrassades, etc. Tu sais, je me dis, je comprends, là, l'auteur est américaine, le premier public cible, c'est des américaines. Mais c'est deux planètes différentes, ça se peut-tu qu'il n'y ait pas les mêmes codes culturels?
Ouais, c'est exactement.
Dans tes cas, tu sais, c'est ça. Mm. Bref, c'était mon éditorial, ça. Sur la question.
Avant qu'on passe à l'épilogue, je sais pas s'il y a d'autres points que tu voulais aborder ou...
Ben, peut-être juste un dernier avant l'épilogue. Peut-être mentionner que, pour une fois, c'est Padmé version sans Anakin.
Oui.
Parce que, bon, évidemment, c'est pas une question là, que Padmé a besoin d'Anakin ou quoi que ce soit, mais que ce soit dans la série Clone Wars, que ce soit dans les films, que ce soit dans ses apparitions dans d'autres médias, plus récemment, il y avait le deuxième de Timothy Zahn, le deuxième Thrawn.
Alliances.
C'est ça, où est-ce que, bon, t'as Padmé, puis t'as Padmé en mode solo beaucoup, mais t'as Padmé que Anakin est quand même dans le décor, puis Anakin finit par arriver un moment donné, puis bon, elle avait pas besoin de lui du tout, là, mais c'est juste pour dire que pour une fois, on a un récit de Padmé sans Anakin.
Ouais.
Du tout. Ça, j'ai trouvé que ça, c'était rafraîchissant, ça faisait du bien.
Il n'y a aucune mention d'Anakin. Il y a juste sa mère, là, mais à part ça, même sa mère, elle n'est même pas nommée directement.
Non, effectivement, c'est juste une référence, mais ils disent pas Shmi, etc.
Ouais, c'est ça.
Mais, fait qu'il y a ça que j'ai trouvé que ça faisait différent. Et aussi, j'ai trouvé que le personnage, on retrouvait la Padmé quand même très version de Clone Wars. Et malgré tout, elle était peut-être moins, en tout cas au moins sur l'aspect politique, elle était beaucoup moins, tu sais, tu parlais qu'elle était naïve, mais elle est moins tête brûlée que quand que dans la série Clone Wars, là, tu sais, elle se met toujours en danger. Elle fonce toujours tête baissée vers le danger, vers l'action, etc. Tandis que là, elle arrive au Sénat et justement, elle fonce pas.
Elle est moins impulsive.
Elle prend le temps d'analyser ça, de se faire des idées, etc., par elle-même, de peser les versions des différentes personnes. Donc, c'est drôle, parce que, tu sais, d'habitude, les gens, en vieillissant, ils s'assagissent, là, c'est comme un petit peu l'inverse. Mais, sur le reste, par contre, il faut avouer que le personnage, tu sais, on reconnaît tout de suite la Padmé des films et de la série.
C'est là qu'on voit qu'Anakin est une mauvaise influence.
Ah, tu vois, c'est peut-être ça, j'avais pas fait le lien, mais t'as raison. Puis Anakin est toujours le premier à foncer dans le tas sans se poser de questions.
Oui, c'est comme, pas grave, les conséquences, pas grave, on y va.
C'est, dans le fond, c'est ça qu'il y avait en commun.
Ouais,
c'est ce qui a créé le couple, il y a toujours des choses que t'as de différences complémentaires, puis t'as des choses en commun. Eux, c'est, je fonce dans le tas sans réfléchir, et on verra comment je m'en sors après. Mm. Fait que, passons à l'épilogue que vraiment, dans ton cas, a complètement valu la lecture.
Ouais, ben, pour moi, c'est ce qui rachète le livre. En tout cas, c'est ce qui a fait que mon score du livre a augmenté. Parce que sans l'épilogue, le livre, je l'aurais coté peut-être 11 ou 12 sur 20. Mais l'épilogue, puis je trouvais que l'épilogue, ça rachète un peu. Ben, pas un peu, quand même assez. L'épilogue se déroule après la Revanche des Sith, après la guerre des clones. Donc, Padmé, elle est morte. Donc, l'épilogue se déroule au funérailles de Padmé. Ce qui est un peu étrange, hein, un peu dans le saut du temps, parce que le reste du livre se déroule 4 à 5 ans après la menace fantôme. Tu sais, le livre se déroule même pas de la menace fantôme, genre à l'attaque des clones. C'est juste pendant comme les deux premières... c'est les deux années, les 4-5 ans. Puis là, après ça, oups, ça saute à la mort de Padmé.
Ouais, puis il y a pas une grosse transition. Hein,
non, c'est vraiment... Paf,
c'est instantané.
Ouais, c'est ça. Encore une fois, ça montre que ça a été peut-être un peu fait maladroitement, mais bon. Ce que j'allais dire. Oui. Donc, l'épilogue... C'est ça, Padmé est morte. Là, c'est Sabé, on apprend qu'elle est toujours vivante. Donc, même si on la voit pas dans les films, elle est toujours vivante dans l'histoire. Sabée, c'est ça, elle décide de... Là, c'est, on apprend tout ce que Padmé, sur quoi qu'elle travaillait, puis tout ça. Toutes les ce qu'elle voulait apporter au Sénat, là, les différents... en anglais, le terme, c'est « bills », là. Je sais pas c'est quoi le terme français, désolé.
Les lois.
Les lois, merci. Qu'elle voulait apporter, puis que là, on sait que ça arrivera jamais. Puis, elle reçoit une communication de Bail Organa, qui lui demande de venir la rejoindre, qu'il y a quelque chose à lui montrer et qu'elle devrait venir le rejoindre. Et ce que j'ai trouvé vraiment cool, c'est que ça finit exactement de la même façon que le roman Ashoka, qui est écrit par le même auteur. Ceux qui ont lu Ashoka, si vous vous rappelez, ou ceux qui l'ont pas lu, là, je vous gâche le spoiler final, là. Mais Ashoka reçoit, à la fin du roman, elle reçoit un email, pas un email, excuse, une communication de Bail Organa qui lui demande la même affaire. Il dit, viens me rejoindre, j'ai quelque chose à te montrer. Puis tout ça, ça se déroule après, justement, la revanche des Sith. Donc, et aussi, ce qui arrive après ça, c'est qu'Ashoka devient Fulcrum, qu'on voit dans la série Rebels. Donc, on sait pas ce qui arrive avec Sabé, mais on sait que ça laisse sous-entendre qu'elle a été impliquée dans la création de la rébellion. Vu qu'elle va être avec Bail, puis qu'elle se rencontre sûrement Ashoka aussi. Donc, ça l'ouvre les portes peut-être à une histoire sur Sabé, parce que honnêtement, Sabé, le point de l'histoire qu'on a sur elle, lorsqu'elle tente de libérer les esclaves, mais aussi après ça, lorsqu'elle est sur Coruscant pour essayer de savoir qui essaye de tuer Padmé puis tout, moi je trouve que c'est un personnage qui est super intéressant.
Ouais, c'est la Ellie Vanto ouais. de ce livre.
Donc, tu sais, il y a du potentiel de faire une histoire juste avec elle. Donc, ça l'ouvre les portes à ça, mais ça l'ouvre les portes aussi à ce qu'on pourrait voir dans... Bon, on sait que Rebels est fini, donc on la verra pas dans Rebels. Mais peut-être dans soit un livre, un autre film ou quoi que ce soit qui se déroulerait entre La Revanche des Sith et Un Nouvel Espoir. Mais on pourrait voir... ce que Sabé faisait durant cette période-là.
Ouais, ben c'est les commentaires des critiques que j'ai vus qui ont tant adoré le livre. C'est ce qu'ils voudraient, effectivement. Là. Un spin-off, une genre de suite avec Sabé. Moi, ce que t'as pas mentionné, je dis l'impression que j'ai eue. Moi, j'ai tout de suite pensé à Leia. Parce que là, dans le fond, on sait que Leia est rendue. T'sais, elle sait pas Sabé. Mais là, elle se fait appeler pour. Je me souviens plus si c'est par Bail ou par Brea.
Non, c'est par Bail.
Par Bail. Ouais. Mais bref, c'est ça. On sait qu'elle va aller sur Alderaan. Donc, je me suis dit, OK, ajoute-tu un rôle dans l'éducation de Leia.
Je sais pas.
C'est surtout à Leia que j'ai pensé sur le coup plus qu'à la rébellion. Mais t'as raison, effectivement. Là, le lien avec Ahsoka est évident. Mais ouais, je pense que c'est un personnage, pis tu sais, je disais c'est la Ellie Vanto de ce livre-là, ben c'est pareil, là. Ellie Vanto, t'es un personnage secondaire inventé, en plus lui, il était jamais apparu nulle part, là. Inventé vraiment par Timothy Zahn comme personnage secondaire là, de Tron. Et le personnage a tellement plu que dans le deuxième tome, il est complètement absent jusqu'à la toute fin, jusqu'à l'épilogue justement. Et bon, d'après ce que j'ai compris, le troisième tome qui sort cet été, justement, c'est le retour de Ellie Vanto. Donc, qui sait, on va peut-être avoir une suite à Queen Shadow aussi, là, éventuellement. Probablement aussi, encore une fois, en format young adult. Mais non, moi, je suis d'accord avec toi, c'est un personnage qui vaut la peine là, d'être développé. C'est sûr qu'on peut pas mentionner tout ce qu'il a fait dans le livre, là, mais... C'est, comme tu disais, t'sais, débrouillarde, ou en tout cas, là, sans elle, c'est sûr que Padmé n'arriverait pas à faire tout ce qu'elle fait. Bon, qu'est-ce qu'elle faisait pendant l'épisode 2 et 3?
On sait pas.
On sait pas, mais bref, comme tu dis, on apprend là, qu'elle est encore en vie. J'ai trouvé ça intéressant, sa perspective aussi sur la mort de Padmé. Parce que nécessairement, c'est un moment qu'on a juste vu dans le film. On l'avait jamais vu dans aucun livre, BD, etc. Et la mort et en tout cas les funérailles, etc., l'après Padmé. Puis, tu sais, elle refuse de croire tout ça. Bon, elle voit bien que Padmé est morte, mais tu sais, ça peut pas être possible. Puis, on disait qu'il n'y a pas de mention d'Anakin, mais je pense qu'il y en a une dans l'épilogue. Ça se peut. Tu sais, il me semble que Sabé, elle mentionne quelque chose, là, comme qu'est-ce qui a pu arriver à Anakin, ou c'est ça, ou elle dit qu'Anakin est mort aussi. Elle dit Padmé est morte, Anakin est mort, c'est impossible, la République devient un empire. Fait qu'elle, dans le fond, ce qu'elle veut, là, c'est aller enquêter là-dessus puis trouver qu'est-ce qui s'est passé. Mm-hmm. Elle veut tout de suite quitter Naboo pour Coruscant. Mm-hmm. Et là, finalement, c'est là qu'elle reçoit le message pour Alderaan.
Oui.
Bon, on sait ce qui arrive à Alderaan plus tard dans l'histoire. On va lui souhaiter qu'elle n'était pas présente à ce moment-là.
Mais bon. On sait pas, peut-être que l'auteur A.K. Johnston va écrire un troisième livre qui va peut-être justement faire le lien entre Ashoka et Sabé.
Ah, qui sait, effectivement.
Ça pourrait être le fun.
Après avoir été l'aide de camp de Padmé, ça pourrait être l'aide de camp de Fulcrum, de Ahsoka.
Ouais, peut-être.
Qui sait. Mm. Je mentionnerais peut-être, on n'a pas parlé du tout, ou à peine on a parlé d'attaque de pirates. Tu sais, on disait qu'il se passe pas grand-chose dans le livre. Ben, il y a la section 5 qui est un petit bout d'action, justement. Puis il y en a beaucoup qui ont adoré cette section-là. C'est ça, elle venait sauver le livre, etc. Il y en a qui ont trouvé d'après ce que j'ai lu, là, ça les sortait un peu de l'histoire, ou en tout cas, c'était au niveau du rythme, puis tout ça, ça fitait pas avec le reste du livre. Ouais. Faut avouer que le reste du livre est très mollo, puis là, tout à coup, là, on a un épisode de Clone Wars. Là,
ouais, ouais.
Mais bref, c'est ça. Et j'ai quand même bien aimé aussi la petite stratégie, la petite manœuvre politique que, tu sais, même Bail Organa, il dit à Padmé, garde, y a rien à faire. Oublie ça, là. Choisis tes batailles, là. C'est celle-là, tu peux pas la gagner, ça vaut pas la peine.
Mm-hmm.
Et finalement, ben, par un stratagème politique, Padmé a réussi à obtenir ce qu'elle veut, puis à ce que le Sénat approuve son projet de loi, etc.
Ouais.
Ça, j'ai trouvé, c'était le petit bout House of Cards, là, de comment par en dessous dans les coulisses. Puis là, t'as le sénateur de la Fédération du commerce qui avait bloqué le tout. Qui est obligé de ruminer dans sa capsule, ou en tout cas sa plateforme, là,
ouais,
dans le Sénat.
Ouais.
Parce qu'il ne peut pas s'opposer à la fin, là, vu que Padmé a réussi sa manœuvre. Fait que c'est ça, il y a un petit peu d'action, là, on peut le mentionner, vers la fin du livre.
Excellent. Donc, ça, c'est nos critiques et nos observations du livre Queen's Shadow. On a quelques commentaires sur notre page Facebook. D'auditeurs qui ont lu le livre. Si on y va avec Caroline Mange, elle a écrit: j'ai trouvé dommage que la timeline du livre n'aille pas jusqu'au début de l'épisode 2. Effectivement, on en a parlé nous autres aussi. Toutefois, il était intéressant de savoir comment la transition du statut de reine à sénatrice s'est faite. Et le parcours des suivantes, donc les aides de Padmé après la fin du mandat de la reine Amidala, était un arc intéressant.
Ouais, on n'en a pas parlé vraiment de cet aspect-là, mais nécessairement, c'est pas toutes les servantes de la reine qui la suivent en tant que sénatrice. Non. Donc, il y en a qui deviennent artistes, ou en tout cas, quelques-unes.
Mm-hmm.
Il y a Sabé qui suit, mais je me souviens plus lesquelles qui retournent à leur vie.
Ouais, parce qu'il y en a une qui est en politique. Mm-hmm. Et, comme tu dis, il y en a une qui devient une artiste. Je me souviens pas des noms, ça ressemble toutes. Donc, ouais, je me souviens pas exactement lesquels.
Ça, c'est un point qui est ramené très très souvent dans le livre aussi, l'aspect très artistique de Naboo, puis de la culture des Naboo. Mm. Que dès le plus jeune âge, sont vraiment là, entraînés, peut-être pas le bon terme, là, mais bref, l'aspect créatif puis artistique est très très poussé, au point où sa mère, malgré toutes les grandes réalisations que Padmé a fait, puis fait comme sénatrice, sa mère est quand même déçue qu'elle devienne pas chanteuse,
ouais,
je pense, ou quelque chose, ou peintre, une affaire comme ça. Fait que,
son père, lui, il est plus, tu sais, fais ce que tu veux, fais ce que t'aimes. Mm-hmm. Sa mère, elle est comme, non, tu me déçois.
Ouais, c'est ça. Ouais. En tout cas, la relation mère-fille, là,
ouais.
Ça, tu vois, ça aussi, j'avais pas nécessairement les repères.
Oui, c'est ça.
Pour bien comprendre les références.
Ouais. On a aussi un commentaire de Fifanel qui dit « J'ai bien aimé le côté politique et d'en apprendre plus sur les suivantes. Il y a un côté féministe dans le livre et revoir enfin Padmé en femme forte fait du bien, effectivement. Le livre permet de la réhabiliter. Par contre, l'insistance sur les tenues et coiffures de Padmé m'a saoulé. Ça va à l'encontre du reste. Oui, effectivement, mais comme on a expliqué, il y a un but en arrière de ça. Hein? C'est pas juste pour faire une parade de mode, là. Qu'on nous fasse un point pour qu'on comprenne qu'elle soit sous-estimée, ok, mais bon, là, il y a beaucoup trop de points de fashion. Puis, encore une fois, comme on disait, il y a une histoire en arrière de ça, il y a un but en arrière de ça. Ça m'a fait lever les yeux au ciel à force. Le livre se lit rapidement, mais il est bien en dessous, par exemple, du roman sur Léa de Claudia Gray. Ah, ça, je suis tout à fait d'accord. Léa, Princess of Alderaan, est un bien meilleur livre que Queen Shadow. Et le dernier commentaire que nous avons de David Dupont. J'ai beaucoup apprécié. J'espère qu'on aura plus d'histoires sur Padmé. Le personnage a été trop mis de côté. Certains points spoilers me font questionner sur ce que pourrait devenir niveau histoire familiale. Ouais. Mm-hmm. On en a parlé. Et Francis, toi, ben, t'as mis la vidéo de Molly
ouais,
et Damon.
Ben, je peux peut-être le mentionner là, aux gens d'aller voir ça. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, j'avais jamais remarqué à quel point elle pouvait y ressembler. Évidemment, là, c'est une question de maquillage, mais c'est Molly Damon, dans le fond, une YouTubeuse qui est en couple avec Alex, dans le fond, le YouTuber connu pour sa chaîne Star Wars Explain, qui, elle nous a fait un... Je sais pas combien de temps dure la vidéo, là, mais bref, un maquillage rapide, cosplay, on pourrait dire, de la couverture du livre. Donc, comme j'expliquais en début d'émission, la moitié du visage de Padmé, c'est la version jeune reine Amidala. L'autre côté, c'est la version sénatrice, là, comme on la connaît un peu plus tard dans la série télé. Et Molly Damon lui ressemble là, comme deux gouttes d'eau. Moi, j'étais stupéfait là, à quel point... elle a quand même, c'est ça, le même type de visage, on va dire. Ouais. C'est pas moi qui aurais pu se maquiller comme ça. mais je vous invite quand même à aller voir au moins le résultat final. Là. C'est quand même très impressionnant. Ouais.
Puis on avait une question de Claude Jalbert qui demandait le nombre de pages, mais on l'a répondu en début d'émission, donc c'est 352.
Ouais, effectivement, ça c'est la version hardcover là, aux États-Unis.
Ouais, ben c'est ça, c'est la seule version qui est disponible en ce moment. C'est sur ce point que nous allons terminer notre émission. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions sur ce que nous venons de discuter par email à studio@starwars.direct, sur l'article de l'épisode sur notre site starwars.direct, ou sur notre page Facebook, notre compte Twitter, notre compte Instagram et notre chaîne YouTube. Côté prochaines émissions, avec la nouvelle bande-annonce qui va paraître vendredi pour l'épisode 9 et probablement pour The Mandalorian ce week-end, il va y avoir des épisodes dédiés à ces bandes-annonces et probablement aussi des épisodes spoilers où ce qu'on va discuter de ces deux émissions, de ces deux bandes-annonces. On rappelle aussi que nous sommes toujours en recrutement au Québec et en Amérique du Nord. Donc, si vous êtes passionné de Star Wars et vous voulez en discuter avec nous, allez sur notre page starwars.direct dans la section recrutement. Et on rappelle aussi notre boutique à starwars.direct section boutique où vous pouvez vous procurer des t-shirts ainsi que des tasses si vous êtes en France. Star Wars en direct est disponible sur les plateformes iHeartRadio, Deezer, Spotify, Stitcher, Google Play et Apple Podcasts. On remercie encore une fois nos partenaires Mint in Box, Star Wars Olonet, Cyclan.net, Planète Star Wars, Star Wars Universe, Star Wars Geeks Québec et Génération Star Wars et Science Fiction. De la part de Francis et moi-même, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous.